Alors, M. Dubard, aujourd'hui, on se rencontre pour un petit peu faire un certain point historique, dans le fond, sur les grands événements et certains points de détail aussi qui font partie de l'histoire, en fait, de Cité de la Santé de Laval. Et ma première, en fond, question serait à savoir si quelle a été la première étape, la toute première étape qui a engendré la création de la Santé de Laval. Quel est l'individu qui a été le promoteur ou par la suite le comité de travail qui a été dans un ensemble les promoteurs de cette entité-là qui est devenue l'établissement de la Santé de Laval?
Ça remonte déjà à plus de 20 ans. Avant la fusion de Ville-Laval, il y avait un médecin, Dr Lucien Paiement, qui pratiquait Ville-Vimont. Même, ça s'appelait là, au tout début Saint-Elzéar, et qui était rattaché à l'hôpital du Sacré-Cœur. Et lorsque la fusion des 14 municipalités de l'île Jésus s'est faite en 1965, il est devenu un des échevins, un des conseillers de la nouvelle ville. Et c'est à ce moment qu'il a réalisé que cette ville-là était assez importante avec ses nombreux habitants, nombreuses personnes pour former la deuxième ville en importance du Québec, avant même la ville de Québec, et qu'il n'y avait qu'environ 21 lits, je crois, au petit hôpital Sainte-Rose pour desservir cette population-là. Alors, il a décidé de faire une étude en collaboration avec les autorités de Ville-Laval, service de démographie de Ville-Laval, service de statistique de Ville-Laval, pour établir les besoins de santé de la ville de Laval, de la population de Ville-Laval. Cette étude-là se voulait démographique et statistique au début, mais par la suite, elle s'est développée pour établir également les besoins physiques pour desservir, au point de vue santé, la population de Ville-Laval. Et le rapport de cette commission-là a été déposé à la ville de Laval en 1967, au mois d'août 67. Ce qu'on appelle aujourd'hui le rapport Paiement. Et ce rapport-là a également, tout comme Cité de la Santé depuis ses débuts, a fait appel à de nombreuses personnes, à de nombreuses associations. Ce rapport-là a fait appel à toutes les associations médicales ou paramédicales qui ont de près ou de loin affaire à la santé de la population. Vous avez toutes les associations, même d'optométristes, audiologistes, pharmaciens, médecins spécialisés ou autres, travailleurs sociaux, ont collaboré, même tous les hôpitaux de la région de Montréal ont collaboré à produire ou à donner des renseignements pour cette commission-là. Le rapport ayant été déposé au temps à Ville de Laval, il y a eu par la suite une représentation auprès du ministère des Affaires sociales. Et le temps passant, le ministère, après avoir étudié sérieusement ce rapport-là, a accepté de donner une charte à cette commission-là, une charte en décembre 68. Et c'est un point, à mon avis, qui est très intéressant à savoir, c'est que les signataires de la charte étaient quatre médecins omnipraticiens, Dr Paiement, Dr Harris, Dr Desrosiers et le Dr... le nom ne me revient pas, là. C'était un autre omnipraticien. Il n'y avait aucun spécialiste.
De Laval, qui était...
Quatre médecins de Laval. Là.
Il était intégré plus tard, ce médecin?
Il était intégré, oui. J'essaie de me souvenir du nom, là. Ça peut revenir tout à l'heure.
Okay.
Et ça démontrait au départ l'orientation qu'on voulait donner à ce qu'on appelle Cité de la Santé, même si dans le temps, eux appelaient ça un centre de la santé à Laval. Là. C'était la prédominance du médecin de famille. Là. Et ça a toujours été ainsi par la suite après. Lorsque la charte est arrivée, ils ont regroupé des personnes bien en vue de Ville-Laval pour former un conseil d'administration, membre de la corporation. S'élevait à 14 personnes environ, qui représentaient tous les milieux de Ville-Laval et les milieux de l'enseignement également. Il y avait cette corporation-là, autant des ingénieurs, des hommes d'affaires, des notaires, des avocats.
Est-ce qu'on pourrait tout de suite peut-être se rappeler les noms? Je vais en nommer, puis peut-être tu pourrais compléter.
Oui.
Il y avait, à ma souvenance, en tout cas, il y avait évidemment le Dr Paiement, Il y avait Fernand Bibeau, qui était Fernand le maire de Laval-sur-le-Lac. Il y avait Georges
Paul
Coury, un comptable. Il y avait Robert Filiatro, qui était un ingénieur, membre de la firme des Jardins Sorrières. Il y avait M. Laniel, qui était à l'époque un gérant de banque ou de succursale.
Qui était parmi les officiers de la banque
Nouvelle-Écosse.
Nouvelle-Écosse au début.
Il y avait Jean-Jacques Lheureux, un avocat. Il y avait Charles D'Ambroise, architecte, qui était à l'emploi de Radio-Canada. Il y avait Pietro Rizzuto. Au début, il n'était pas Pietro Rizzuto. Hein? C'est par la suite qu'il est arrivé.
Pietro Rizzuto est arrivé quelques mois après.
Mais on peut dire qu'il était dans le fond...
Il était au tout début, avant que les travaux commencent. Ouais.
Il y avait M. Lacoste.
Lucien Lacoste,
à ce moment-là, il était directeur général de l'hôpital Notre-Dame.
C'est ça.
Il y avait Michel Dubreuil aussi, qui était directeur général de l'HQ à ce moment-là.
Dubreuil était au tout début, et il a laissé par la suite...
Très rapidement,
parce qu'il est parti pour la région Sherbrooke.
C'est ça. Mais il était, à ce moment-là, on l'avait intégré parce qu'il était directeur général de l'HQ, l'HPQ,
l'Association des hôpitaux. Oui.
C'était à peu près tout ce monde-là. Hein. J'en ai pas oublié.
Il y en avait un monsieur là qui était en charge d'une grande entreprise de distribution de fruits et légumes de Montréal.
Ah, ça m'échappe complètement.
Qui demeure à Saint-Martin.
Ouais.
Il faudrait que je
me... Sorial?
Non. Mais il n'est pas venu longtemps parce qu'il est tombé malade, ce monsieur-là, puis il n'a pas pu assister aux assemblées. Tu sais. Beaucoup. Tu sais. Mais le conseil avait 14 membres et ça fonctionnait rondement. Et les gens s'assistaient régulièrement aux assemblées, une assemblée mensuelle. Et lorsque les autorisations ont été données là, de partir, les autorisations de construire en 1978, on avait établi dans le temps d'engager des professionnels. Alors, ils ont engagé deux firmes d'ingénieurs, une firme d'architectes, pour préparer des devis, plans et devis.
Mais avant ça, il n'y a pas eu une firme qui est engagée. C'est après que la firme pour préparer un plan fonctionnel et technique... Là,
non, ça, c'est venu après. Ça,
c'est après.
C'est après. La firme d'architectes, c'était M. Auger.
Ouais.
Qui était le propriétaire, président de cette firme-là. Il y avait des associés avec lui. Et les bureaux d'ingénieurs étaient les deux bureaux de Laval, de Jardin Soriol, puis Jean-Ron Lafer. Et ils ont fait des travaux.
Des esquisses.
Ils ont commencé des esquisses. Le bureau d'architecte a même présenté un modèle réduit d'hôpital. Et malheureusement, il y a eu des élections.
Ouais.
Et les élections ont fait que le gouvernement était renversé. On avait même engagé un consultant en administration
hospitalière. Mais c'est ça que je ferais.
Un consultant, Norman Brady Associé.
Norman Brady Associé, c'est ça.
Qui faisait des travaux pour 5-6 autres institutions de Montréal, la Miséricorde, l'Hôtel-Dieu, Saint-Luc, un temps. Puis,
dans le but de préparer un programme fonctionnel et technique.
Fonctionnel et technique, exactement. Et tout ça a été mis de côté. Et les travaux qui avaient été faits par ces gens-là ont dû être nécessairement remboursés. Et
on pourrait peut-être rappeler qu'il arrivait à ce moment-là à un total de 1100 lits. C'est exact qu'il arrivait?
Le rapport paiement demandait 1191 lits.
1191
lits. Je le dis en souriant parce que même à l'époque, c'était énorme. Mais ces statistiques-là étaient basées sur une croissance plus rapide que ce qui s'est produit de la population et surtout sur le rapport Federal Hall. Sur les besoins en lits de santé. Et c'était avant que le gouvernement décide que les services en externe des hôpitaux deviennent gratuits. Alors, il se faisait beaucoup d'hospitalisation pour ce qu'on appelle des check-ups, des vérifications de routine maintenant. Ça se faisait hospitaliser parce qu'hospitaliser ne coûtait rien, mais externe coûtait quelque chose, t'sais. Alors, la tendance a changé et les besoins en lits véritablement pour des soins aigus ont diminué de beaucoup. Et le rapport paiement demandait 1191 lits. Je me souviens personnellement d'en avoir ri de ça parce que c'était trop fort. T'sais. Moi qui étais à Fleury dans le temps avec 250 lits, je trouvais ça énorme. Mais le besoin, statistiquement parlant, était de 1191 lits. T'sais. Aussi curieux que ça puisse paraître. Mais il y a eu beaucoup de tractations à ce sujet-là. Là, on est rendu en 1978. Et, c'est-à-dire, en 1978.
68.
68. 68. 69. Ouais. En 69, il y a eu des élections. En 70, il y a eu des élections. Alors que des devis étaient en marche, maquettes faites, puis que le travail se faisait pour présenter le programme de M. Brady.
Là, M. Eric Kearns est arrivé.
Et les libéraux sont arrivés au pouvoir.
Ouais.
M. Claude Castonguay.
Oui.
Et il a mis un moratoire, qui était plus qu'un moratoire, en fait, qui a complètement annulé tous les programmes de construction à travers la province de Québec, des hôpitaux. Saint-Jérôme, entre autres, dont une partie était déjà construite, il a fait fermer les murs complètement, puis arrêter les travaux. Notre-Dame de l'Espérance, l'excavation était faite, le footing était fait complètement, remplissait les trous. Alors nous ici, ça tombait là complètement. On a même reçu une lettre pour vendre ou céder, je ne me souviens pas où c'est un autre hôpital,
terrain, ouais.
La table du conseil et les chaises qu'on avait achetées. Dans
ça, ouais.
On était dans un local loué. Et on a simplement répondu « No way, nous on continue quand même, on veut qu'il y ait un hôpital Laval parce que le besoin est là. » Ça a duré de mai 70 à décembre 71 avant qu'on ait un nouvel arrêté en conseil pour nous permettre de reprendre les travaux d'élaboration des plans et devis et de construction éventuelle. Mais là, étant un nouveau gouvernement, forcément, des personnalités ont changé. Les deux bureaux d'architectes n'ont pas changé. Les deux bureaux d'ingénieurs n'ont pas changé. L'architecte, lui, a dû être changé. Et c'est devenu deux bureaux d'architectes qui se sont réunis ensemble pour former un joint venture, si on peut dire, pour la construction de l'hôpital.
Juste une question de précision. À quel moment que la corporation s'est louée effectivement des locaux et à quel endroit?
En 1969.
Ils ont loué un local.
Local dans l'édifice GL.
Dans le GL.
Petit local là, qui mesurait, je pense, c'est 500. Je crois qu'il y avait 500 pieds.
Ouais, je me souviens de ça. C'était...
Une petite entrée où se trouvait le secrétaire, un bureau pour le directeur général, moi, en l'occurrence, une salle du conseil où on était très, très étroit. Mm. Avec 14 membres, quand les 14 y étaient, on était serrés, c'est vraiment serrés. Et par la suite, lorsque, en 81, à la fin de
81... Non,
71. 71, ouais. Je suis toujours... Ouais. À la fin de 71, lorsqu'on a eu un nouvel arrêté en conseil, on a loué dans le nouvel édifice qui s'était construit adjacent où on était logé, un grand espace pour y loger sur un même étage et dans des espaces contigus adjacents, et les bureaux des architectes, et les bureaux des ingénieurs, et deux bureaux d'ingénieurs et du consultant. Là aussi, il y avait eu un nouveau consultant qui était Soram, représenté par le docteur...
Gagnon. François Gagnon.
François Gagnon. Et là, ça marchait rondement. Parce que, retenez qu'en 71, décembre 71, une nouvelle charte et les travaux ont commencé au mois d'août 73. Travaux d'excavation. Alors, ça donnait en fait un an et demi, pas plus que ça. Et tout a été fait dans cette période-là. Un programme a été tracé, un programme a été accepté par le conseil, soumis également à des autorités médicales qui étaient consultantes un peu, des médecins, entre autres, qui viendraient ultérieurement, soumis au conseil d'administration et soumis au gouvernement qui l'a accepté.
Alors, le programme fonctionnel et technique avait été fait par le groupe de Soram.
Le groupe de Soram, et suivant le rapport
Perrin. Suivant le rapport Perrin, évidemment, comme base de
suivant
de
les limitations du gouvernement. Parce que au fur et à mesure que le programme se faisait, on le présentait au conseil, et on se mettait au conseil, on en discutait, et là, on allait voir les hauts fonctionnaires, ou venaient nous rencontrer, pour savoir leur point de vue à eux, si c'était acceptable ou non. Parce que c'était bien beau de mettre des choses dedans, puis si au bout de la ligne, c'était rayé, le programme technique il pouvait être bouleversé complètement. Oui. Et on avait eu l'expérience avec un autre consultant avant, où lui agissait de son propre chef, ça. Et lorsque c'était présenté, mais ça ne marchait plus. Oui. Alors là, on a utilisé les services des hauts fonctionnaires au fur et à mesure du développement du programme de Soram. Et ça a très bien fonctionné, parce que je me souviens, entre autres, d'un programme en radiologie où on parlait de la thermographie, qui était très en vogue à l'époque. C'est une technique de radiologie de préventive, très, très en vogue. Plusieurs hôpitaux s'en sont servis, ont acquis l'équipement. Pourtant, il y avait...
C'était la détection des cancers du sein.
Des cancers du sein chez la femme. Ouais. Et dans les hauts fonctionnaires, il y avait un médecin qui n'était pas entièrement favorable. Et à force de discuter, ce médecin-là a même fait des recherches aux États-Unis et en Europe, aux frais du ministère, plus, il est arrivé qu'au bout de la ligne, ce n'était pas une chose absolument nécessaire, essentielle et tellement fiable. Tu sais. Et ce programme a dû être abandonné en cours de route. Tu sais. C'était un peu la même chose pour la médecine nucléaire. On voulait qu'il y ait la médecine nucléaire, le plan le prévoyait, le programme le prévoyait, le ministère était d'accord, mais ça n'a pas fonctionné, mais on nous a demandé quand même de faire les installations physiques nécessaires pour le futur. Et ça existe actuellement, les installations physiques. Et c'est pour ça que la collaboration s'est faite de tout instant avec les fonctionnaires du ministère. Il n'y a pas eu de problème à la fin, lorsque le programme était présenté. Il était accepté, tout marché, au cours de route. C'était plus facile. C'est pour ça que, dans l'espace d'un an et demi, le programme fonctionnel technique, plans et devis préliminaires, plans définitifs, contrats de construction ont été alloués. Et puis, ça a pu fonctionner.
À quel moment le fameux coordinateur, la longue durée de temps, est arrivé dans le portrait? C'est-tu en 70, effectivement?
Il est arrivé un peu avant les débuts de construction.
Juste avant les débuts de construction.
En 71.
En 71, parce qu'en le fond, il y avait le mandat lui, de coordonner les activités des professionnels et des coûts. Aussi.
Des professionnels, ingénieurs, architectes, tout ça, mais des coûts de construction.
Des coûts de construction.
Alors, la construction, les excavations ayant débuté en 71, au mois d'août, lui est arrivé, je ne me trompe pas, là, dans les mois de janvier, février, quelque chose comme ça, 71. Et lui, son mandat, c'était ça,
de coordonner les activités des professionnels
et de contrôler les coûts dans les budgets.
C'était le but d'avoir réuni dans un même lieu physique tous les professionnels, savoir les architectes, les ingénieurs, évidemment l'administration de CSL, c'est la santé, dans un même plancher.
Exactement.
Et dans le but de coordonner très rapidement toutes les activités de ces professionnels-là. Alors que d'habitude, les architectes vont travailler dans leur bureau situé à un endroit X, puis les architectes, les ingénieurs vont travailler ailleurs dans un endroit Y.
Ça
ne
s'est pas fait facilement, cette coordination-là, dans un même local, parce que ça leur a été imposé. En fait,
par la corporation.
Parce que, comme vous dites si bien, ils ont leur propre bureau, ils ont leurs instruments de travail dans leur bureau. Quel avantage pour eux d'occuper un autre local ailleurs?
Même si je me rappelle bien, c'était la corporation qui louait l'ensemble de locaux puis qui refacturait les professionnels.
Exactement.
On exigeait qu'ils soient vraiment présents puis qu'ils règlent leurs problèmes rapidement entre eux.
Ça a amené comme conséquence une collaboration très intense et ça a amené également des froissements par bout. Je me souviens très bien que lorsque les architectes faisaient des plans et devis, il était exigé que je sois mis au courant. C'était une décision de l'administration du conseil. Et j'ai eu à leur faire changer énormément de détails dans les plans. Vos bureaux étaient beaucoup plus grands qu'ils le sont actuellement. Ils étaient presque le double de ce qu'ils étaient. T'sais. Et pour eux, c'était la direction générale, il fallait qu'il y ait des grands bureaux énormes. T'sais. Je dis, c'est pas absolument essentiel que ce soit grands bureaux énormes s'ils ont des salles de rencontre ailleurs pour rencontrer 7-8 personnes. T'sais. Et j'ai dit, ça va en prendre plus que ce que vous prévoyez, par exemple. Alors, ils ont rapetissé les espaces, ils ont fait plus de bureaux. C'était la même chose dans les cliniques externes. Les espaces, ce qu'on appelle les alvéoles, c'était des grands espaces.
Et c'est la même chose. Ouvert,
Oui, mais je veux dire, les chambres, les pièces.
Ah, OK, là, les bureaux,
là, étaient beaucoup plus grands que ce qu'ils sont maintenant. Alors, la même chose aussi, on fait changer les dimensions pour en faire plus. T'sais. Et il est arrivé un moment où un des architectes en chef s'est choqué, puis il m'a apostrophé carrément. Il a dit, vous prenez-vous pour un architecte? J'ai dit non. Mais c'est moi qui vais avoir à vivre dedans avec les médecins et les employés après. Puis il dit, vous allez être parti quand ça va fonctionner. Puis vous allez faire ce qu'on veut faire. Il a regimbé, puis il a pratiquement refusé. Puis ils ont vendu ça au conseil. Puis si vous refusez, moi, je vous fais sacré dehors, carrément. Et il a accepté. Et une bonne journée, il dit, là, j'ai donné ordre, il dit, à mon employé, Réal Ferland, qui était dessinateur architecte, de ne plus accepter aucun changement de plan à compter d'aujourd'hui. Mais j'ai dit, je vais en accepter encore. Puis lundi matin, je vous en apporte d'autres. Puis s'ils n'acceptaient pas, moi, je faisais l'impression qu'on change d'architecte. Lundi, je suis arrivé avec 40 changements de plan. C'est assez facile. Je prenais leur plan avec un transparent. Je faisais les corrections, je leur arrivais comme ça. Et ils ont accepté. Et ça a pris à peu près 3 mois pour cette situation, là, pour s'ajuster. Puis là, ils ont compris après le bon sens des interventions. Puis ça, c'est devenu un bon ami par la suite. Mais moi, je craignais le travail de ces architectes-là qui n'avaient jamais fait d'hôpital avant. C'est pour ça que je voulais être présent lors des esquisses. Et puis, parce que l'autre, le précédent, avait fait un hôpital. M. Auger, le premier, avait fait l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, puis il avait travaillé à l'hôpital Sainte-Justine aussi. Alors, il y avait l'expérience d'un centre hospitalier, ce que c'est le fonctionnement d'un centre hospitalier. Mais malgré tout ça, avec la collaboration de tout le monde, on peut dire que c'est une réussite parce que ça fonctionne drôlement, c'est de la santé.
Ici est venu, à, on peut vous rappeler en mémoire, retenir en mémoire, qu'il s'est ajouté une foule de consultants, plusieurs consultants de toutes les spécialités, comme en radiologie bien, et les laboratoires. Il y a eu Dubreuil et Jeannotte qui a fait un certain travail. Puis il y a eu effectivement une autre firme, mais je pense que c'est Soram finalement qui a travaillé aussi au niveau des laboratoires.
Le programme fonctionnel et technique de Soram était complet. Il incluait également radiologie et laboratoire. Il incluait également l'équipement à être installé en radiologie et en laboratoire, ce qui doit être approuvé avant que les travaux de construction de ces deux espaces-là se fassent, mm-hmm. parce que c'est en fonction de l'équipement qui rentre dedans. C'est soumis au gouvernement. Par contre, il y a un ingénieur du gouvernement qui a retardé, malgré nos instances, nos demandes et pressantes, qui a retardé assez l'approbation de ces devis-là, que les coûts des diverses compagnies n'étaient plus valables. Et il fallait redemander d'autres soumissions. Par coïncidence, cet ingénieur-là nous a également soumis le nom d'une firme de consultants, Dubreuil et Jeannotte. Eux connaissent ça, ça va vous aider considérablement, parce qu'ils n'avaient fait ailleurs. Alors, très bien, l'administration engage cette firme de consultants-là. Et malheureusement, ça a fonctionné, mais malheureusement, les prix n'étaient plus les mêmes, mais ça a coûté environ 130 000 $ de plus pour avoir moins d'équipements que ce qu'on prévoyait originalement, d'après les premières soumissions. Et ça retardait un peu les travaux également. Et ce que Dubreuil et Jeannotte ont fait de mieux, c'est simplement, à mon avis, moi, une structure plus forte, plus solide pour l'équipement de radiologie. À part ça, les changements étaient tellement mineurs que ça ne valait pas la peine.
C'est-tu cette firme-là qui avait préparé tout un devis sur un système modulaire de tous les comptoirs de laboratoire, les établis de travail? Puis c'était Dubreuil et Jeannotte qui avait tout, qui coûtait très, très cher. Hein. Je me souviens, c'était de l'ordre de 300 000 $ 400 000 $ juste pour les laboratoires.
Exactement, ça n'a pas été retenu à cause
du prix. Ça n'a pas été retenu à cause du coût absolument exorbitant.
Et ça a été modifié considérablement. C'est pour ça que je vous dis que les changements étaient mineurs, parce que c'est pratiquement revenu à ce que préconisait la firme Soram auparavant. Les changements majeurs, c'est simplement dans l'installation et la suspension des appareils de radiologie, qui ont coûté très cher, mais c'est très bon, mais c'est très cher. Ouais.
À cette époque-là aussi, le conseil d'administration avait beaucoup, en tout cas, de préoccupations quant à l'aspect là, esthétique de la bâtisse et l'intérieur de la bâtisse. Et c'est pour ça qu'il a engagé une firme de consultants aussi pour toute la question des couleurs et la question de l'agencement des couleurs et l'agencement du mobilier. C'est-tu exact, ça?
Oui, oui. Je ne me souviens pas du nom de la firme, par exemple, mais la firme a travaillé de concert avec nous et avec un spécialiste en communication pour déterminer un agencement de couleurs qui permettrait également de se diriger dans l'hôpital. Un agencement de couleurs, un agencement de pictogrammes et un agencement de mobilier qui fasse que l'intérieur soit beau à voir, soit attrayant, et soit dans un qui ne représente pas un milieu traditionnel hospitalier, mais qui représente un milieu accueillant. Et si vous regardez encore les couleurs qui existent aujourd'hui, qui sont pratiquement toutes les mêmes, il n'y a pas eu de changement important, sauf un endroit, les couleurs sont un mariage d'une couleur par clinique externe. Vous avez une série de verts des portes. Et le haut de la porte sont d'une couleur vert, mais d'un vert qui change à chaque porte.
Nuancé.
Une nuance.
C'est la teinte de base, mais nuancée.
Exactement.
Avec une variante dans la même catégorie de vert ou d'une autre couleur, par exemple, dans un autre endroit
ça peut être orangé.
Orangé.
Exactement. L'administration, c'est une couleur orange, jaune, pardon. Et vous regardez les jaunes des portes, elles changent constamment d'une porte à l'autre. Ça fait un agencement très beau à voir parce qu'il n'y a rien de criant, il n'y a rien de choquant dans les changements comme tels. Hein? Sur les étages, toutes les portes sont identiques pour les chambres de patients, sur les trois étages de chambres de patients. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, qu'il y a une relation entre les couleurs et l'orientation. Parce qu'à l'entrée principale, vous avez un bloc, une colonne, où on indique les services et la couleur principale du service.
C'est ça, oui.
Il y a un pictogramme également qui indique le service, mais c'était voulu au début, pour que les gens s'orientent avec ça. Le pictogramme était très nouveau dans le temps. Non seulement il y avait cette forme de communication-là, mais des gens du ministère également qui étaient très désireux de voir s'installer ça à travers le Québec, le système de pictogrammes. Mais dans l'esprit du public, ça n'a pas assez été vendu ou ça n'a pas pris comme on aurait voulu que ça soit. Parce qu'il y a des services qui sont très difficiles à identifier par le pictogramme. Je pense entre autres santé communautaire. Ici, on a pris un soleil avec des rayons, mais c'est très difficile à faire passer dans l'esprit santé communautaire. Même le nom santé communautaire est difficile à faire comprendre aux gens ce que ça comprend. Alors, imaginez-vous, comme pictogramme, c'est encore plus difficile à faire. T'sais. Par contre, lorsque vous montrez un œil, ah, ça, l'ophtalmologie, c'est clair. Montrez le cœur, cardiologie, ça va bien. T'sais. Montrez la psychiatrie.
Un
individu, les deux bras en l'air, c'est le terme grec
ça,
psy.
C'est ça.
Alors, c'est assez difficile à faire comprendre des gens qui n'ont pas fait de cours.
La relation, autrement dit, entre la psychiatrie réellement c'est et ça. Ce signe-là.
Il y en a une qui a été faite, une relation par certaines personnes. Parce qu'au même moment, il y avait un livre qui a été écrit par un ancien patient de Seigneur de Dieu.
Il priait un bras en l'air.
Il disait, les fous crient au secours. Ouais. Alors, ça
a fait boule de neige.
Ça a diminué la valeur comme telle du pictogramme, mais il est resté quand même. Tu sais. Et toutes sortes de choses semblables, tu sais, parce que les ascenseurs étaient montrés comme une personne,
une boîte
qui est à moitié, puis une autre qui monte. Alors, une personne qui est coupée en deux. Tu sais. Il y en a qui ont dit, ben, c'est de la chirurgie, vous faites ici, il coupe la personne en deux. Tu sais. Toutes sortes de choses qui ont été dites dans ce sens-là.
Mais pour dire que là-dessus, c'était quand même très innovateur.
Parce que
la suite, une très grande majorité d'institutions sont venues visiter Style et Santé. Ils ont demandé les sigles, effectivement, avec les significations. Puis ça a été implanté, effectivement, dans quelques institutions par la suite.
Alors, oui.
C'était très innovateur.
Une grande partie a été utilisée ailleurs,
ouais,
mais pas d'une façon aussi importante qu'ici. Mais c'était très bon, et ceux qui sont installés ici demeurent quand même. Et ça reste une chose très valable, à mon point de vue, qui demanderait possiblement à être publicisée davantage. Tu sais. Mais c'était très bon comme idée, et l'élaboration des pictogrammes ici a été très bonne, près comme la famille, qui s'est répandue maintenant. Une famille, c'est un homme, une femme, puis un petit enfant. Et comme pictogramme, c'est merveilleux, tu sais, ça se fait facilement. Tu sais. Et c'est utilisé dans d'autres organisations à l'extérieur. Tu sais.
Si, maintenant, si on revient en arrière un peu plus, là, si on revient à l'époque du gros de la construction... est-ce que vous vous rappelez là, certaines anecdotes ou certains problèmes qui ont été générés effectivement par la construction?
Oui, bien, je pourrais remonter juste un petit peu avant ça, lors du choix du terrain. Ça s'est fait un peu avant mon arrivée, mais il y avait trois possibilités dans Laval. Et finalement, le choix s'est fait sur le terrain qui était situé au centre géographique de l'île. Facilement d'accès, facile d'accès par la voie 440 qui n'était pas faite encore, mais qui était décidée.
Mm-hmm.
Facile d'accès par Laurentide, dans le temps, qui était la voie qui traversait du nord au sud de l'île Jésus, qui existait depuis toujours. Hein. Et ça a permis un développement dans une zone qui était strictement agricole et qui aurait demeuré agricole dans le temps. Et je me souviens que, une fois que le terrain était décidé, que la route 440, elle, passait au sud, mais n'avait pas de sortie pour l'hôpital. Puis là, il a fallu qu'il y ait des interventions au niveau politique assez sérieuses puis assez rapides parce que c'est très difficile de faire un overpass et de faire des voies d'évitement après qu'une route, autoroute est construite.
Parce qu'il faut souligner que la 440, c'était une, l'œuvre du gouvernement provincial
absolument.
Et non pas de la ville de Laval.
Ah non, non, c'est ça. C'est un autre niveau de responsabilité.
C'est un autre niveau de responsabilité.
Et la proximité du boulevard des Laurentides faisait que c'était très difficile à organiser des voies d'accès à l'hôpital. Très difficile parce qu'ils ne peuvent pas, dans un court espace, faire des voies d'évitement.
C'est trop serré.
Et tout ça. Et ça a été réussi quand même, et ça a amené la voie qui surplombe la 440, qui est devenue boulevard Lanec. Et ça, c'est une autre histoire.
René Lanec.
Pourquoi choisir un nom semblable? C'est un nom de médecin, inventeur du stéthoscope, et ainsi de suite. Hein?
Ah, c'est ça l'origine de ce nom-là. Moi, je
René Lanec, c'est l'inventeur du stéthoscope.
Du stéthoscope, ouais.
Et c'est pas une chose choisie au hasard. Hein? Tous les noms qui des rues environnantes de l'hôpital se rapportent tous à des sommité médicale. Lennec.
Pavlov, non?
Pavlov, qui était le médecin russe, le chercheur russe qui a.
La bouche?
Salivation.
Salivation?
Et puis Béthune, Normand Béthune.
Normand Béthune, évidemment, c'est un médecin aussi, qui a vrai en Chine.
Puis tout le développement des hôpitaux, c'est tous des noms de sommité médicale.
C'est vrai, c'est exact. Il y avait une question d'intérêt, peut-être.
Le terrain, là, c'est assez. Parler de problèmes, c'est que les gens se disent, mais comment ça se fait que c'est si loin de boulevard Lanec? Tout simplement, la seule raison valable, d'abord, ça donne un beau point de vue, c'est vrai, mais la seule raison valable, c'est que lorsque les sondages ont été faits, Ville de Laval est une ville de calcaire, très importante, le sous-sol sans calcaire.
Mm-hmm.
Et il s'avérait que ça aurait coûté très cher de dynamiter et de creuser dans le calcaire. Et une fois les sondages faits, on s'est aperçu qu'il y avait une baisse, comme une dénivellation dans le sol qui permettait de creuser sans faire d'excavation de roc. Ou presque pas de roc. T'sais. Et ça sauvait un montant énorme de coûts d'excavation. Ça réduisait les coûts de construction. T'sais.
Ils n'ont pas changé aussi le niveau de la rue par rapport à l'hôpital?
Les niveaux étaient changés
pour éviter une excavation trop forte à l'hôpital.
Exactement, oui. Et vous voyez que le terrain de stationnement est un petit peu plus bas que le niveau de la rue aussi. T'sais. Et... mais ça amenait des choses un peu curieuses parce que dans le temps, c'était un terrain en culture qui avait été, c'était trois parties de terre qui avaient été achetées. Et un des propriétaires de ces terrains-là, M. Dagenet, avait des animaux, des bestiaux qui se promenaient dans les champs, qui mangeaient dans les champs. Et une fois l'excavation commencée, on avait prévu une clôture en bois pour cerner ça, pour empêcher les gens d'approcher, mais il n'y avait aucune maison alentour sauf ces vaches. Il n'y a pas de personne, rien, pas de construction. T'sais. La clôture aurait coûté 30 quelques mille dollars. T'sais. C'était prévu, le coût de la clôture, 30 quelques mille dollars. On s'est dit, en fait, au conseil, s'il n'y avait pas de vaches, on n'aurait pas besoin de clôture, en fait. Alors, le propriétaire connaissait bien, le docteur Dagenet, paiement connaissait bien M. Dagenet. Il l'a appelé et il a demandé de changer les vaches
de package.
De package. Alors, il a mis ses vaches dans son package au nord, c'est Saint-Alzéar. Il n'y a plus de vaches alentour.
On a sauvé 30 000
pièces. On a sauvé 30 000 pièces de clôture. Mmh. Alors, c'est assez curieux. Et la peinture pour peindre cette clôture-là était déjà achetée. Alors, la peinture a servi, puis on peinture les entrepôts ici.
C'est ça, oui. Les planchers, la peinture grise.
Peinture grise,
c'est suivi tout le long du contrat, finalement, qui a servi à peinturer les entrepôts.
C'est assez drôle comme anecdote, parce qu'on l'a vécu dans le temps. Mais,
Le fait que le TPMA était à la fois maire de Laval et président du conseil d'administration... doit avoir facilité beaucoup toutes les relations en fait avec l'instance publique municipale.
Oui, mais ça, cette collaboration-là.
Les permis, les permis de construction.
Même au début, dans ce qu'on appelle le rapport paiement. On mentionne dans ce rapport-là que c'est avec la très grande collaboration de la Ville de Laval, le Service démographique et statistique, dont M. Chapleau était le directeur, que le rapport paiement a pu voir le jour parce que tout a été fait là, tapé par le secrétaire de ce service-là aussi. Et dans le temps, le docteur Paiement n'était pas maire de Ville-Laval, de Saint-Pierre-Chevin.
Dans l'opposition.
Dans l'opposition au début.
Ouais.
Et par la suite, il est devenu maire. La collaboration avec la Ville-Laval ne s'est jamais démentie, a toujours continué, mais même de façon très intense par la suite, un peu avant l'ouverture, lorsqu'il s'est agi de préparer un document dont M. Garneau était l'auteur, il y a eu une collaboration importante de Ville-Laval pour des diapositives, entre autres. Et ça n'a jamais cessé jusqu'à ce que le maire Paiement ne soit plus maire. Et par la suite, la collaboration avec la ville est bonne, mais les besoins de collaboration sont moins fréquents, moins évidents.
Quel était le... Je me souviens qu'à un moment donné, on a ouvert une partie de l'édifice au tout début de l'année 75, puis finalement, a été intégré le directeur général, M. Dubard, et sa secrétaire, dans la bâtisse. Et, quel était le genre de vie que vous meniez à cette époque-là?
C'était c'est assez curieux, parce que moi, j'étais temps partiel.
Une journée semaine.
C'était au début une journée semaine, après ça c'est devenu deux jours semaine, pour assister surtout aux assemblées des professionnels et assemblées du comité exécutif, du conseil d'administration aussi. Et lorsque, en 1974, je suis devenu à temps complet, là, les travaux étaient commencés, mais n'étaient pas assez avancés, on était encore à l'édifice GL. Et par la suite, on a demandé au contracteur général d'aménager un espace physique, pour qu'il puisse nous recevoir,
arrêter les coûts aussi, de...
pour éliminer, en fait, le coût de location là-bas. Alors, on est arrivé en 1975, en fait. Je ne sais pas exactement en quel mois, là. On était dans un local qui était aménagé. Mur en gyproc, non peinturé, plancher en ciment. Et ça faisait pas mal de poussière, puis ça nuisait même aux dactylos de la secrétaire. La poussière qui arrivait là-dedans dans le mécanisme. Alors, on a décidé de faire installer un tapis temporaire, un tapis pas trop dispendieux, dans les locaux, pour que les gens ne salissent pas trop, et les gens du conseil également. Et ça a fonctionné comme ça jusqu'en 76.
Ouais, début, ouais, 75, 76.
76.
C'est-à-dire début, fin 75, début de 76.
Et pour nous chauffer, on avait des fils électriques temporaires, des chaufferettes temporaires, des fils qui pendaient partout. C'était assez...
rudimentaire.
Pas mal rudimentaire. T'sais. Il fallait faire attention de ne pas s'accrocher dans les fils. T'sais. Mais ça a réussi quand même. Il fallait ne pas regarder trop près. Et c'est dans ces conditions-là qu'on a fait les entrevues de sélection des cadres supérieurs. Et je me souviens encore d'une journée où les entrevues se faisaient toujours avec un comité. Le docteur Paiement, un membre du conseil et moi. Parfois une autre personne aussi. Je me souviens de l'entrevue de Richard Bastien qui était assez cocasse en ce sens que ça avait lieu... Ben, on avait vu plusieurs personnes, mais lui était le dernier. Et ça avait commencé à 3h30 de l'après-midi, environ. C'était durant l'hiver. Et l'électricité a manqué. On est arrivé dans la noirceur, complètement dans la noirceur. Là, on était rendu à 4h30 de soir. On s'entrevoyait par une lueur de l'extérieur, mais il commençait à faire noir, on ne se voyait plus. Puis on se parlait dans le noir. T'sais. Il a fallu arrêter l'entrevue, mais on avait eu assez de temps quand même, bouger la personne pour pouvoir l'engager. Mais ça fait curieux de faire des entrevues dans des conditions semblables, pour des cadres supérieurs surtout. Là.
Comme ça, l'entrevue a fini dans le noir.
Complètement dans le noir.
Donc, on pourra se rappeler de ça lorsqu'on verra M. Bastien.
Carrément dans le noir, mais dans le noir, la lueur du jour dans mon bureau, c'est la seule lueur qu'il y avait. Puis il fallait marcher à tâtons pour sortir de la bâtisse après. T'sais. D'ailleurs, tout le temps de la construction, les rencontres qui se faisaient à l'hôpital étaient dans des conditions un peu spéciales. Ouais, parce que. Difficile. Je me souviens d'une rencontre qu'on a eue d'urgence au comité exécutif, au comité de la construction qui s'appelait également dans le temps, un dimanche, parce qu'il y avait des problèmes avec l'architecte, un peu dans le genre que je vous parlais tout à l'heure, des problèmes de paiement puis d'arrivée de fonds. Et c'est Paul Couré qui était trésorier
de
la corporation du temps, est arrivé en vitesse dans le terrain, certainement, puis c'était à la fonte des neiges. Alors, il y avait... On grattait la neige, mais on n'enlevait pas la neige complète parce que le parking était en roche. Seulement. Et il est arrivé, puis en vitesse, parce qu'il était un type un peu nerveux, puis il stationne son char. En stationnant, il met les freins trop fort, il a défoncé la surface, son char a calé complètement. Puis lui, en descendant, il a calé aussi, puis il est arrivé, les pieds tout trempés, tout mouillés, les bottes pleines d'eau.
Très, très bonne humeur.
Bonne humeur pour l'assemblée. Ouais. On parlait là, en latin, cette fois-là. T'sais. Et quand il est venu pour sortir, son char n'est pas sorti. Là, il a fallu faire venir une remorque pour pratiquement le lever pour sortir de là, parce qu'il était pris dans slush. La voiture était calée dans la neige. T'sais. Alors, c'était des conditions un peu spéciales. Même le terrain pour arriver auparavant, par rapport à l'hôpital, on passait par Montémonette. La rue Lennec n'existait pas. Et j'étais moi-même pris dans la glaise, en vase, sur la montée, l'entrée de la rue Monette.
Moi, c'est ça, on avait accès par le Saint-François et Montémonette.
Montémonette. Puis j'ai été pris. Moi, il y avait les anciens fossés, là. On avait mis de la pierre, mais là, il y avait eu une fonte importante d'eau, et puis j'avais été lavé. Puis moi, je passe dans l'eau, les roues ont calé. Alors, il a fallu qu'une pépine du contracteur vienne me chercher pour sortir de là. T'sais.
Si on retournait un petit peu encore en arrière, au temps de la construction, il y a eu des difficultés assez importantes avec certains corps de métier. Hein.
Durant
la construction. Oui. Il y a eu des grèves, je pense. C'est surtout les gars en électricité, je pense, en structure, peut-être pas structure.
En plomberie.
En plomberie. Oui. Il y a eu une grève assez dure, c'est assez sauvage.
C'était très important dans le temps, ce local 144.
C'était à l'époque aussi de la construction du stade olympique.
Oui, ça c'est un facteur majeur dans le coût de la construction, parce que lorsque l'arrêté en conseil était donné en 71, c'était 20 millions.
C'est ça.
C'était le même qu'originalement en 68. Et la construction s'est faite parallèlement et au même moment que la construction des Jeux olympiques. Vous savez l'histoire des Jeux olympiques avec tout ce qui s'est produit. L'inflation galopante qui s'est produite. Et nous, on devait arriver à l'intérieur du 20 millions. Ça a été absolument impossible. Et on a eu des grèves, comme il y en a eu dans ce temps-là, par des mêmes locaux que plomberie, entre autres, le local 144, tellement que je me souviens d'une journée où les plombiers ont décidé de faire la grève et de fermer le chantier. Alors, il est arrivé deux voitures remplies de...
Des bonsoirs,
des vrais fiers à bras. Là, puis... il coulait les dalles de béton des divers étages ici. Et il a fallu faire un joint spécial, arrêter où ils étaient rendus, faire un joint spécial. Ils n'ont pas permis même de monter un autre.
Une barquette
de ciment, absolument pas. Et le camion de ciment qui est là a dû déverser son voyage de ciment à terre et s'en aller. Puis le chantier était fermé complètement. Hein. Et il n'y a plus rien qui passait. Puis une autre occasion, c'était un autre corps de métier, des électriciens, et qui voulaient fermer le chantier, mais leur force était moins évidente parce que les autres corps de métier ne les suivaient pas. Et les autorités de la ville de Laval, les autorités policières, nous ont aidés à traverser les lignes de piquetage qu'ils avaient dressées, puis tous les autres corps de métier aussi. Alors, les travaux ont pu se faire quand même, mais au ralenti. Parce que ça doit se faire concurremment avec tous les corps de métier.
C'est parce que, si je me rappelle, à cause justement de ce que vous avez parlé tout à l'heure, les prix là, étaient vraiment montés de façon effrayante. Je pense que les coûts, juste la partie mécanique électrique, étaient pratiquement le double des estimés. Hein.
Les estimés étaient de 18 millions. Ouais. Pas autant que ça. Là.
Non, il me semble que c'était de partie mécanique électrique, mais ça n'était pas 3 millions quelque chose.
Ça a coûté 3 millions et demi. Ouais. Mais c'était de 1,8 million.
Oui, c'est ça. Ça a doublé, en fait.
Le coût réel. Presque doublé, tellement que les grèves et les stewards, les grévistes qui ont eu des problèmes là-dedans, là, le contracteur a eu des problèmes importants qui ont fait qu'il a perdu sur le chantier. Il y en a quelques-uns qui ont même perdu leur chemise, si on peut dire ça, ainsi, à cause, justement, des réticences des ouvriers et des coûts de construction galopants.
Il y a eu un petit peu de sabotage aussi? Non, pas beaucoup?
Pas vraiment pour la peine. C'est pas important. C'est l'effet de quelques personnes, des individus isolés, qui fait que ça n'a pas retardé vraiment le chantier. T'sais. Mais sabotage en sens comme mettre le feu, disons, dans les containers de déchets à la porte, mais qui n'ont pas touché à la bâtisse comme telle.
Pas touché à la bâtisse, heureusement.
Oui, mais il y en avait sur d'autres chantiers au même moment, puis c'était très important. Et il fallait surveiller quand même tout le temps. Hein. Et ça a été une expérience assez intéressante. Quand on regarde ça aujourd'hui, on est rendu le 19 avril 1985, ça date déjà de
75, 10 ans.
C'est assez important.
C'est une période très intensive de la construction.
Et aujourd'hui, quand on parle du terrain et des vaches qui risquaient de tomber dans le trou, alors que vous voyez sur la bâtisse, c'est une construction de maisons extraordinairement importante. Et très dispendieuse aussi. Les gens ne peuvent pas croire que ça peut être fait, là, bâti comme ça, là, à partir de rien, au milieu d'un champ, et que ça fonctionne comme ça fonctionne aujourd'hui. Mm-hmm. Et
quel était le premier cadre supérieur qui a été choisi, finalement? Je pense que c'est Dr. Carignan.
Dr. Carignan.
Directeur de services professionnels.
Directeur des services professionnels, Dr. Carignan. Et ça aussi, c'était en relation avec l'objectif de l'hôpital, à savoir de...
Le choix, c'est-à-dire...
De choix et l'engagement de ce professionnel-là, de ce directeur-là. C'est qu'on voulait favoriser dans l'hôpital la médecine familiale, santé communautaire aussi. Et le Dr. Carignan était directeur du service département de santé communautaire de...
Laurentier-de-la-Naudière.
Joliette, je crois. Hein?
Joliette, mais avant, il était directeur de département de santé communautaire
De la région.
De la région, Laurentier-de-la-Naudière.
Et Dr. Carignan avait une longue expérience du milieu hospitalier. Et comme chef, il avait fondé le département de santé communautaire à Joliette.
C'est exact. Hein?
Alors, il était la personne toute désignée pour venir ici. Et son département a été créé en 1975. C'était le premier département ouvert qui a fonctionné, même si l'hôpital n'était pas fini d'être construit. Mm-hmm. Et ça a permis de réaliser un autre objectif de la corporation, à savoir le regroupement des médecins de Laval. Parce que Laval... si vous vous souvenez, c'était 14 villes avant, 14 entités différentes, puis le regroupement des villes n'avait pas nécessairement regroupé les mentalités. Les médecins étaient isolés par groupe, il y avait 4 groupes importants dans les 4 parties de l'île. Hein? Et vraiment, la venue du Dr. Carignan a permis, parce que c'était un vendeur né, a permis que ces personnes-là se rencontrent, qu'ils soient une sorte de médiateur ou de regroupeur et... pour que ces personnes-là travaillent ensemble dans l'hôpital. Parce que sa conception était d'une continuité de soins. Les gens se font soigner à l'hôpital, retournent dans leur milieu, que ce soit le même médecin qui les suive, qui continue à donner les soins. Et si un groupe, disons, de l'Ouest n'aurait pas voulu venir ici à l'hôpital, on aurait eu des problèmes de continuité de soins après. Et il s'avère que ça a été réussi, puis aujourd'hui, les gens sont très heureux de ça. Ça fonctionne très bien. Il n'y a pas de clan de médecins omnipraticiens contre des médecins spécialistes, comme il existait dans le temps ailleurs. Il y a eu une collaboration à tous les instants depuis le début. Et c'est grâce surtout au Dr. Carignan, cette réussite-là.
Alors, il a réussi, dans le fond, à regrouper les médecins de Laval puis à les impliquer dans la philosophie que la corporation avait mis de l'avant à l'origine.
Oui.
Et ça s'est poursuivi.
La philosophie de la présence...
Médecin
de famille.
Médecin de famille.
L'omnipraticien. Comme médecin traitant. Ouais. Et cette philosophie-là existe encore aujourd'hui. Même si c'est lourd un peu à supporter pour certaines personnes, certains spécialistes, le médecin omnipraticien est le médecin qui contrôle le patient avant son arrivée, durant l'hospitalisation et après le départ du patient. Mm-hmm. Et c'est une très bonne chose. Très bonne chose. Et je m'explique parce que, d'après l'expérience que j'ai pu vivre ailleurs, il est arrivé à plusieurs reprises qu'un patient n'ait plus de médecin, là, puis il est encore hospitalisé. Le patient est transféré d'un spécialiste à un autre, un deuxième, un troisième, un quatrième spécialiste. Et puis, quand le quatrième a fini son travail, lui n'a plus à voir ce patient-là. Le patient-là ne me concerne pas, il n'y a pas rien dans ma spécialité. Qui est-ce qui s'en occupe? Alors qu'ici, c'est la santé, c'est l'omnipraticien qui est toujours au-dessus, qui s'en occupe. Et cette philosophie-là était très importante et a été adoptée ailleurs par la suite. Ouais.
Après l'embauche, je pense que de Dr. Carignan, quelques mois plus tard, on a commencé, au début d'année 1916, à faire la sélection pour les cadres supérieurs.
Les autres cadres supérieurs.
Tous les cadres supérieurs sont arrivés à peu près avant mai, presque en même temps.
Presque en dedans de deux mois.
En dedans de deux mois, tous les cadres supérieurs étaient arrivés. Exactement. Je pense que la suivante, c'était surtout Mme Farmer, qui était la tête des soins d'infirmiers. Le choix s'est fait en collaboration avec l'université.
Oui, parce que faculté de nursing.
Nursing. Donner l'affiliation qu'on a avec...
Oui, parce que c'était une demande du rapport paiement de faire un hôpital universitaire.
C'est ça.
Il y a une chose qu'on a oublié de mentionner en cours de route, c'est que durant l'espace de 1968-69, mai 69 à décembre 81, à décembre 71, il y a eu des tractations nécessairement qui ont été faites de représentation au ministère pour revitaliser, pour recommencer à avoir un hôpital. Mais il y a eu des études qui ont été faites par le ministère, puis il y a eu également un comité de mise sur pied, le comité Bois. Le docteur Robert Bois, qui était le doyen de la faculté de médecine du temps, qui a étudié l'implantation d'un hôpital à la ville de Laval. Et les études du ministère portaient sur plusieurs points. Construction d'un hôpital à la ville de Laval, rénovation de l'Hôtel-Dieu ou transfert de l'Hôtel-Dieu à la ville de Laval. Et ça a amené pas mal de discussions, pas mal d'inquiétudes partout aussi, parce que l'Hôtel-Dieu, c'était quelque chose. C'était 700 quelques lits dans le temps.
Ouais, oui, je vous arrête tout de suite, c'est parce que, pour situer ça dans le temps, c'est que le ministère, au lieu de, à l'époque, au lieu peut-être d'accepter d'emblée le projet de Laval, voulait possiblement transférer dans un bloc l'Hôtel-Dieu de Montréal à Laval avec toute son entité, c'est-à-dire ses médecins,
ses spécialistes,
l'administration. Et parce qu'à cette époque-là aussi, ça faisait une étude là, des coûts que ça aurait coûté à cette époque-là pour rénover l'Hôtel-Dieu de Montréal. Et on mettait ça beaucoup dans la balance. Puis d'où l'origine de la demande, en fait, de la formation du comité Bois.
C'est ça.
Dont les conclusions sont...
Le docteur Bois, son rapport est arrivé le 28 septembre 1971, comme vous pouvez le constater, juste un peu avant que le nouvel arrêté en conseil se produise, en décembre 1971, donnant le feu vert pour construire. Oui. Puis le rapport Bois était assez clair. Il reprenait les conclusions du rapport paiement, à savoir que ça prend un hôpital. Il n'est pas question de transférer aucunement l'Hôtel-Dieu à Ville de Laval.
Ce qui était très peu pratique.
C'était illogique et
impratique parce que, après d'abord, les médecins ne voulaient rien savoir de cette possibilité-là d'être transférés à Laval.
Puis il y avait également un aspect qui n'avait jamais été utilisé par les fonctionnaires, c'est le transfert du personnel.
Ah, aussi.
Avec les syndicats, ça n'aurait jamais marché. Hein? Et de partir d'un hôpital de 750 lits, implanté dans un milieu fortement urbanisé, puis en faire un hôpital ici, on parlait dans le temps de 700 lits, qui était réduit à 500 lits, commencé à 200 lits, ça n'aurait pas été possible de transférer tout ce monde-là non plus. T'sais. Et c'est pour ça que le rapport Bois a aidé considérablement à ce que l'hôpital soit fait tel qu'il est présentement, c'est-à-dire 350 lits comme arrêté en conseil. Mais les gouvernements, étant ce qu'ils sont, ils ont dit 350 lits, très bien, mais avec le même montant qu'en 1968, 20 millions. Il fallait bien commencer quelque part, mais 20 millions, pourtant des Olympiques.
Puis qu'on a accepté, en sachant bien que ce n'était pas possible.
C'était presque impossible au départ. T'sais. Mais on a essayé quand même de respecter le plus possible cette contrainte-là de 20 millions. Je me souviens très bien, moi, de changement de matériaux durant la construction, les planchers, entre autres. Ça devait être des planchers de vinyle pur, de tuiles de vinyle pur sur les planchers. C'est la mode dans le temps. Bien, il a fallu changer ça pour réduire les coûts. Alors, c'est du vinyle et amiante.
Vinyle amiante, exactement.
Mais le vinyle amiante, dans le temps, l'entretien était très difficile. Mais ils ont réussi, ici ou ailleurs, je ne sais pas, au même moment, à trouver une méthode de nettoyage qui fait que ça n'est pas plus difficile.
Le spray buffing.
Mmh. Qui aujourd'hui fait qu'on a sauvé 100 000 $ quand même, juste sur la tuile de plancher. Mmh. 100 000 $, c'est quelque chose. Ça, t'sais? Alors, également d'autres modifications à l'aspect architectural. Je me souviens des panneaux de béton précontraints qui étaient faits d'une seule pièce, les trois étages et le dessous. C'était quelque chose qui aurait été tellement lourd à installer, ça aurait pris il aurait fallu manufacturer des grues spéciales, avec toute la difficulté pour que ça s'ajuste parfaitement bien. C'était des morceaux qui auraient été aussi gros que le stade olympique, que les ailerons du stade olympique. T'sais. Alors, il était décidé, pour réduire les coûts, de baisser ça en bas de 1 million, parce que ça coûtait 1 million 200 000. Puis les devis accordaient seulement que 900 000 $. Hein. Alors, il a décidé de couper ça en morceaux, de changer un peu l'aspect, d'avoir un morceau moins gros. C'était 900 000 $. Hein.
Toutes ces choses-là étaient favorisées par la technique, pas la technique, mais l'organisation que la corporation avait choisie pour mener à bien ce projet. À savoir, on avait préconisé non pas un entrepreneur général conventionnel, mais bien une entreprise gérant.
Exactement. C'était un entrepreneur gérant et non un entrepreneur général, général qui, lui, fait tout le travail, qui, lui, donne les sous-contrats personnellement. Ici, les sous-contrats ont été donnés par la corporation.
Il était tout donné directement par la corporation, par la décidé corporation. Par l'exécutif et du conseil d'administration.
Signé par la corporation, signé par le conseil d'administration.
C'est ça.
Alors, lui n'avait pas d'intérêt personnel autre que respecter son mandat de gérant du projet et de voir à ce que les coûts soient à l'intérieur du coût prévu dans les devis des architectes et des ingénieurs. Hein. Ça a très bien fonctionné. D'ailleurs, on a eu une firme très importante, Louis Denelot Incorporé. Et à ce sujet-là, je me souviens encore des soumissions pour les entrepreneurs gérants où nous avions choisi la plus basse, mais il n'était plus bas que de, je ne me souviens pas exactement, 25 ou 50 000 $ sur un contrat de 1 200 000, je crois.
D'honoraires.
D'honoraires purs.
D'honoraires de gérance.
Et la deuxième firme n'a pas accepté cette chose-là. Elle nous a même amené en cours, pris une injonction pour arrêter les travaux. Et nous avons été en cours et puis... devant le juge, les petits de Loiret ont commencé, ça a duré à peu près une demi-heure environ, et le juge a rejeté immédiatement
la prétention
de l'autre entrepreneur, parce qu'il n'y avait absolument rien de fondé, tout avait été fait bien légalement, bien normalement. Nous avions choisi le plus bas, et non seulement il était le plus bas, mais il était le plus compétent également. Puis, c'est pour ça qu'on a réussi à faire quelque chose de très bien, dans un coût relativement bas. Je dis relativement bas parce que ça a coûté en fait 28 500 000. 28 millions et demi au lieu de 20 millions. Et dans la période, l'inflation était tellement importante que j'ai pu, par inadvertance, mettre la main sur un document interne du ministère des Affaires sociales qui ne nous était pas adressé du tout, mais c'est un document interne qui avait été laissé sur un bureau devant moi. Je ne sais pas si on l'avait fait exprès. Et j'ai pu lire... et par la suite, on a eu une copie, que les évaluations des fonctionnaires pour notre construction, ça aurait dû coûter 39 700 000 $. Hein. Eux prévoyaient qu'avec l'inflation normale, ça coûtait ailleurs, dans les autres constructions gouvernementales, ça aurait dû coûter 39 700 000 $. Et ça coûtait, c'est leur santé, 28 500 000 $. Alors, ils ne pouvaient pas s'objecter à nous donner le montant additionnel. Même s'il a fallu discuter très fort pour l'obtenir. Hein.
Ça, je me souviens d'une histoire d'honoraire professionnel qui a été très difficile à régler avec les ministères parce que, évidemment, les coûts ont augmenté, mais aussi tous les coûts ont augmenté, évidemment, les coûts des honoraires professionnels.
Et
les réclamations ont été très difficiles à régler avec les ministères.
Ah oui, parce que les honoraires professionnels, c'est un pourcentage basé sur le coût de la construction.
C'est ça.
Alors, certains fonctionnaires disaient, bien, c'était à eux à prévoir les coûts exacts, mais l'inflation étant ce qu'elle était dans ce temps-là, il était très difficile pour eux de prévoir ça. Puis on dit, ils devraient être pénalisés, puis ne pas avoir d'honoraires additionnels.
C'est ça.
Par contre, c'est pas de leur faute si le gouvernement fait des Olympiques ou bâtit pour les Olympiques. Ça amène des coûts de construction plus élevés.
L'inflation.
L'inflation qui était causée par ça.
C'est par ça, évidemment.
Parce qu'il est arrivé des moments de soumission où on n'avait pas de soumissionnaires. Ils étaient tous occupés par les Olympiques, construction des Olympiques. Il fallait faire des pieds de mer, avoir des soumissions plus élevées, faire des changements. Alors, ce n'est pas à faute des professionnels si les coûts ont augmenté dans cette période-là. Et il ne fallait pas les pénaliser dans leurs honoraires. Hein. Mais il y a eu quand même eu des négociations au niveau de leurs honoraires. Ils n'ont pas été payés le plein montant qu'ils auraient pu recevoir si ça a été exclusivement basé sur les coûts.
Monsieur Dubard, à l'époque là, du projet là, de Style de Santé, quel était le support de la population pour ce projet-là? Est-ce qu'on poussait vraiment vers ça? Quelle est votre idée là-dessus? Quelle est votre explication qu'on pourrait donner?
Hein? Bien, avec la grandeur de la population qui existait dans le temps, 14 anciennes villes fusionnées en une seule, devenant la deuxième plus grande municipalité du Québec, 21 lits pour la desservir, les gens, lorsque le projet a commencé à se, non seulement se matérialiser, mais à être discuté dans l'air, dans les journaux locaux, même dans le journal de Montréal, la presse également, les gens ont commencé à s'éveiller et à dire, c'est vrai, on a besoin de ça. Et là, ils sont devenus très intéressés au projet. Le projet étant dirigé par le docteur Paiement, échevin d'abord, docteur Paiement, maire après, moi, je vois un lien direct en son élection à la mairie. Parce que le docteur Paiement, c'était un simple médecin omnipathien pratiquant Saint-Désir-Vimont avec bonne population, mais c'était une petite partie de l'île, elle n'était pas connue plus qu'il faut. Mais son implication dans le projet n'était pas une implication politique, bien sûr. Au tout début, c'était une implication médicale pour donner des facilités de santé à Ville-Laval, aux citoyens de Ville-Laval. Et par la suite, puisqu'il était échevin, les gens ont commencé à penser à lui et à pousser pour avoir plus de services de santé et à le pousser, lui, à se présenter à la mairie. Il était finalement élu maire. Alors, je vois là une implication directe de la population pour être en faveur, montrer qu'ils sont en faveur de l'hôpital.
En tout cas, en lisant le tapement, c'était une réponse vraiment directe à la réponse à leurs besoins de santé.
Absolument, directement et sans aucune arrière-pensée. Moi, je suis certain que le docteur Paiement, pour l'avoir connu de très près, n'a pas vu à la création de l'hôpital pour se faire élire maire. Le docteur Paiement a été poussé pour devenir échevin de Ville-Laval d'abord, parce qu'il était bien, lui, dans le petit patelin où il était, puis il faisait une bonne pratique médicale, très grosse clientèle, mais c'est parce qu'il a évalué qu'il avait des besoins de santé qu'il a vu à faire, parce qu'il était échevin à ce moment-là, il a vu à faire la commission pour établir éventuellement un hôpital. Et la population s'était derrière lui constamment, et ça a aidé les relations, on parlait tout à l'heure, entre l'hôpital et la corporation, a aidé à diminuer les empêchements, politiques ou au niveau des fonctionnaires, surtout de Ville-Laval, les empêchements pour des travaux de construction, pour les permis, si on a des permis, tout ça, ça fonctionnait très, très bien. Mais l'intéressement de la population n'a jamais diminué envers la Cité de la Santé de Laval. Ça a toujours continué.
Ça continue constamment.
Et je me souviens très bien que même durant la construction, les gens venaient constamment, les fins de semaine surtout, moi je venais quand même, venaient voir l'avancement des travaux. Si je vous disais qu'il y a même eu un râlé autour de l'hôpital durant les travaux de construction, alors que les terrains n'étaient pas aménagés, ils nous ont demandé la permission de faire un râlé sur les terrains autour de la construction comme telle. Et c'était pas mal boueux. Puis les gens étaient intéressés à faire ça, puis il est venu pas mal de monde. Et durant la construction également, même il y a un club de Rotary de Laval, pendant 2 ans de suite, qui ont utilisé des locaux, puis ils n'étaient pas complètement aménagés. En fait, c'est les locaux d'audiovisuel et la salle de conférence pour faire un arbre de Noël pour distribution de cadeaux à des enfants défavorisés de Ville-Laval.
Donc, on utilisait déjà
les locaux.
Les locaux de
c'était connu, c'était désiré, puis c'était leur hôpital. T'sais?
Pour des facilités communautaires.
Pour des facilités, de regroupement. Et ça a toujours continué dans ce sens-là, tellement que lors de l'ouverture, si vous vous souvenez, le département d'audiovisuel avait préparé un document très important sur ce que serait le fonctionnement de l'hôpital. Et il y a eu la visite qui s'est présentée pendant une semaine avant que les locaux soient ouverts à des patients. Et il y a eu une quantité considérable de personnes, je crois que c'était un peu plus de 10 000 visiteurs durant la semaine. Et le dimanche, où la semaine de visite se terminait, les gens attendaient jusqu'à 2 heures avant de pouvoir entrer à l'intérieur et avoir accès pour faire la visite guidée. Et les gens étaient en file à l'entrée, à l'extérieur de l'hôpital, et les gens s'attendaient joyeusement, gaiement, s'ils voulaient voir leur hôpital. Mm-hmm. Et ça n'a pas changé aujourd'hui. Il y a un engouement pour leur hôpital qui fait que l'hôpital est surchargé. Et c'était prévu que ça serait surchargé, non seulement à cause de l'engouement, mais à cause de l'importance des populations. Et à mon avis, la deuxième phase est plus que justifiée et devrait être mise en opération, en chantier, le plus rapidement possible.
J'aurais peut-être maintenant une question un peu plus personnelle, M. Dubard. Pour vous, tout au long de votre carrière, qui a été très longue et bien remplie, qu'est-ce que vous considérez le plus important comme réalisation? Pour vous, quel était le qu'on appelle en anglais l'achievement?
Il y a eu plusieurs achievements ou réalisations, parce que quand vous échelonnez ça sur 30 ans, ça date d'avant l'instauration de l'assurance hospitalisation, avant l'instauration de l'assurance santé, c'est-à-dire le sonoraire de médecin. Il y a plusieurs choses qui se sont passées, mais le véritable événement, c'était nécessairement ma nomination comme directeur général ici, qui m'a permis de vivre une étape extraordinaire, la construction de l'hôpital, la mise en chantier, la mise en opération de l'hôpital, le fonctionnement pendant un bon nombre d'années, et de voir que l'hôpital fonctionne à la satisfaction de tout le monde et que ce n'est pas un hôpital comme les autres. On ne voulait pas que ce soit un hôpital comme les autres, et ça n'a pas été, ça n'est pas un hôpital comme les autres. C'est un centre accueillant pour soigner des problèmes de santé. Parce que quand on parle d'un centre hospitalier, on parle d'un hôpital où on soigne, où on fait de la chirurgie, où on fait des traitements. Ici, les gens sont heureux de venir ici, et ils sont bien accueillis, ils sont bien traités, bien sûr, hein, et le nom Centre Cité de la Santé n'est pas un nom choisi au hasard, c'était voulu, parce que ici, on veut que les gens viennent ici et repartent avec une pleine santé. Hein.